Noise pollution.
Generals gathered in their masses.
Bonsoir à tous, chers auditeurs et chères auditrices. Il est 20h02 sur l'antenne de la plus rebelle des radios et nous allons attaquer tous ensemble l'émission numéro 78 de A Noise Pollution, une émission exceptionnelle. Exceptionnelle. Vous êtes en présence donc de Raphaël, moi-même et surtout du grand leader Laurent.
Oui. Oui, tout à fait.
Tu es une petite voix.
Oui,
aujourd'hui.
Non, mais voilà, c'est la fin de semaine, la fin d'année, on est fatigué. Mais cette émission me botte tout particulièrement, puisque là,
j'en étais sûr.
J'ai l'impression de retomber en adolescence, puisque moi, j'ai grandi avec la musique qu'on va passer aujourd'hui dans cette émission. Vraiment grandi, ça m'a accompagné et ça me fait chaud au cœur de diffuser ces morceaux.
Effectivement, aujourd'hui une émission spéciale Noise Pollution. Nous allons consacrer l'émission entièrement au trash des années 80, en exhumant des vieux morceaux et les groupes que vous connaissez.
Ah ouais, parce que là, on va faire les masters, hein, les
ouais,
maîtres,
bien sûr.
Ceux qui sont connus. On fera sûrement une autre émission sur les moins connus.
Oui, ça va être plus compliqué pour moi, peut-être. Je ne sais pas.
Peut-être.
Donc voilà, après un premier épisode où on avait fait, où tu avais fait au grand timonier le hard rock chanté en français des années 80, voici donc le thrash metal des années 80. Et que nous proposes-tu pour commencer cette émission au grand timonier?
Alors, d'abord, un des premiers groupes de cette scène trash est celui qui a donné les lettres de noblesse au style et qui est devenu le plus gros monstre du métal aujourd'hui. Bien sûr, c'est Metallica.
Oh. Ah ouais.
Il fallait commencer par Metallica. Alors du coup, historiquement, c'est vrai que on verra tout à l'heure avec un autre groupe qui aurait précédé un peu Metallica. Alors le thrash, on ne sait pas bien d'où ça vient. On sait qu'il y a des influences diverses, notamment de la scène de la New Wave of British Heavy Metal. Metallica particulièrement, puisqu'ils vont beaucoup reprendre Diamond Head par exemple, qui est vraiment une de leurs influences, et puis pas mal d'influences punk. Les influences punk sont pas très très courantes en métal, mais dans la vague trash c'est bien de ça dont il s'agit. Donc à la fin des années 70, début des années 80, James Hetfield forme un groupe avec lequel il va commencer à composer. Et ils vont composer notamment un morceau qui s'appelle Eat the Light. Eat the Light qu'on connaît tous dans la version Metallica, mais qui a eu une autre version un petit peu avant. J'ai perdu le nom du groupe d'ailleurs, c'est Leather Charm, donc le groupe pour lequel avait été composé Eat the Light par
un groupe de SM peut-être, non?
Ouais, pas sûr. Donc du coup, je vais vous proposer Eat the Light, qui est presque le premier morceau trash connu finalement enregistré. Alors j'ai hésité dans quelle version j'allais la passer. J'ai préparé la version de la compilation Metal Massacre sortie en 82, donc avant la sortie du premier album de Metallica. Cette version de Metal Massacre existe sous deux formes. La première avec une version pas terrible de Eat the Light enregistré avec un guitariste solo qui était un guitariste de studio, et la deuxième version qu'on va s'écouter aujourd'hui qui est très rare, qu'on connaît que sur Metal Massacre, avec Dave Mustaine au solo. Et des morceaux de Metallica enregistrés avec Dave Mustaine, il y en a pas beaucoup, puisque très rapidement Kirk Hammett est venu et Dave Mustaine a été viré comme un malpropre. Donc voilà, je vous propose cette version là de Eat the Light, version avant l'album.
We'll be right back.
Voilà, donc on a ouvert cette émission spéciale Trash, Master of Trash des années 80 par Metallica. Ça nous paraissait évident, enfin moi en tout cas, d'ouvrir par Metallica. Donc dans cette version de Hit the Light qui sera présente ensuite sur le premier album Kill 'Em All, et mais là dans la version de Metal Massacre, deuxième enregistrement a priori. Donc voilà, groupe qui a bercé mon adolescence, parce que les trois premiers albums sont quand même des petits chefs-d'œuvre.
Des petits chefs-d'œuvre,
des énormes chefs-d'œuvre, excuse-moi. Qui sont inégalés aujourd'hui, quand même.
Exactement. Alors avant de continuer, je voudrais faire une petite, parce que je ne l'ai pas faite la semaine dernière, donc la traditionnelle promotion de la page Facebook de l'émission, la page officielle. Donc n'hésitez pas, si vous-même vous avez un compte Facebook, vous vous rendez sur Facebook et vous faites une recherche sur Radio Canut Noise Pollution et vous vous inscrivez en tant que suiveur, vous mettez un petit j'aime, voilà, vous serez au courant comme ça de tous les podcasts. On essaie d'alimenter ça avec des rubriques de concerts, des choses comme ça. Voilà, voilà. Alors, tu as ouvert l'émission avec Metallica en tant que grand maître de l'émission, et puis c'était forcément Metallica s'imposait. Le deuxième groupe s'impose aussi dans la continuité, forcément. Oui. Tu l'as évoqué tout à l'heure, donc Metallica, au tout début, hein, dans sa première version, avait donc Dave Mustaine dans son line-up. Malheureusement, ou pas d'ailleurs, on ne sait pas, on ne va pas refaire l'histoire, mais Dave Mustaine s'est rapidement fait virer, c'était en 1983, suite à sa consommation excessive de drogue. En fait, ça collait pas avec le reste du groupe. Alors, en plus de sa consommation de drogue, en fait, c'était surtout le fait qu'il dealait directement la drogue, donc ça posait un problème pour Metallica. Je peux comprendre. Donc en fait, quand il sort de Metallica, Dave Mustaine est très, il y a une rancune assez sévère, hein, envers les autres membres du groupe, une rancune qui va traîner pendant un paquet de temps.
Qui doit traîner encore, hein. On l'a vu dans le film Some Kind of Monster.
Tout à fait.
Où là, il pleure encore en parlant de Metallica 25 ans après.
Ouais, tout à fait. Mais quand il sort de Metallica, il fonde un nouveau groupe qui s'appelle Megadeth. Et l'idée, c'est vraiment de donner le pion à Metallica, de faire un groupe aussi gros que Metallica.
Moi, je trouve qu'on y a gagné, parce qu'on a eu deux groupes pour
deux
le groupe
de qualité. Eh ben, ouais. Exactement. Exactement. Donc, pour rendre hommage à Megadeth, donc il sortira une multitude d'albums, on va s'intéresser à l'album qu'ils ont sorti en 1987, qui s'appelle So Far, So Good and So What. C'est leur troisième album.
C'est un des deux meilleurs. Non, c'est pas ça.
Pas un de mes préférés, honnêtement. Ah ouais. Moi, je suis très fan de sa période de 90. Alors, il faut savoir.
Ah ouais. Alors que moi, mon album fétiche, c'est Peace Sells. But who is buying?
Ouais, moi c'est Rest in Peace. Mais bon.
Ouais, voilà, ouais, bon. Ouais,
chacun son truc. Donc, Megadeth dans les années 80, donc Dave Mustaine est vraiment complètement accro aux drogues. En fait, en 87, il est vraiment au fond du trou. En 88, il sera obligé de s'arrêter et partir en cure de désintox. Il sera même arrêté, je crois qu'il a des problèmes avec la justice. Mais en 87, quand il sort So Far, So Good and So What, il est vraiment au fond du trou. Il a beaucoup de problèmes avec ses différents musiciens, mais ça n'empêche pas de sortir un excellent album, même si c'est pas celui que je préfère. Je vous propose donc le morceau qui s'appelle Hawk in Moon, c'est-à-dire l'hameçon dans la bouche.
Rings of
Voilà, voilà un extrait du troisième album de Megadeth qui s'appelle So Far, So Good and So What. Et même si à l'époque Dave Mustaine n'a pas au fond du trou avec ses consommations de stupéfiants, c'est un album qui va super bien marcher, qui va se vendre à plus de 1 million d'exemplaires. Derrière, Megadeth va faire une grosse coupure pour revenir après dans les années 90. Après, ça va cuire de désintox avec un énorme album qui s'appelle Rust in Peace. Alors, chers auditeurs, donc cet album So Far, So Good and So What, je vous propose de vous le faire gagner. J'ai un exemplaire en trop là chez moi, je ne sais pas quoi en faire. Donc, je vous propose de vous l'envoyer. Alors pour ça, tout simplement un petit concours très très simple, comme on a fait la dernière fois là. Donc vous vous rendez sur la page Facebook si vous êtes suiveur de l'émission, vous vous dirigez vers vous retrouvez le clip que j'ai mis cette semaine en ligne de Megadeth, hein, c'est très facile, et en commentaire vous répondez tout simplement à cette question qui est extrêmement compliquée. Donc Dave Mustaine, avant de fonder le groupe Megadeth, faisait partie d'un autre groupe. Oh là là. Bon, je vous aide, ça commence par M. Il suffit donc de juste écrire le nom de ce groupe, hein, et le premier qui donne la bonne réponse, et ben je lui envoie l'album So Far, So Good and So What.
Alors toujours dans les groupes de trash des années 80, les maîtres du trash, on va passer tout de suite à un autre gros, il s'agit de Slayer.
Excuse-moi de te couper, en fait c'est tout simplement le Big Four.
Là, oui, on a attaqué par le Big Four. C'est, ouais. Bon, le Big Four c'est une invention récente, hein, parce que c'était un peu non prévisible de savoir quel groupe allait marcher. Ce qu'on peut dire c'est qu'ils viennent tous pour l'instant dans cette programmation des États-Unis d'Amérique, et qu'ils ont tous presque été formés au début des années 80, puisque Metallica c'était 81, Slayer c'est 81 aussi. Donc voilà. En Californie, on fait du trash. Slayer en faisait. Alors, ils ont sorti pas mal d'albums. Il a fallu choisir un morceau. Moi, je suis très très fan du premier album qui était presque pas encore totalement trash, mais qui s'appelle Show No Mercy. Et puis, il y a le chef-d'œuvre absolu pour moi qui restera Rain in Blood.
Ah bah oui, ça.
Voilà. Et du coup, je vous propose un morceau qui est un peu plus rare, qui s'appelle Aggressive Perfector, que moi, j'avais dans le maxi Intime de Capel qui était sorti un peu avant, et qui a été réenregistré pour l'album Rain in Blood, qui aujourd'hui d'ailleurs est édité en bonus sur le CD traditionnel. Comme nous, on a le CD normal, on l'avait pas, mais par contre, on a un beau maxi 45 tours de l'époque.
Ah oui, c'est une pièce rare, je vous l'ai dit, il est couvert de toiles de d'araignée, ah ouais, là,
tu te rends pas compte, on est en 1986. Je m'étais fait un petit plaisir avec cet inédit de Slayer. On faisait ça à l'époque, on achetait des maxi pour avoir des inédits. Donc voilà, version donc Aggressive Perfector, version réenregistrement époque Rain in Blood, morceau ultra efficace, ultra trash de Slayer. Yeah. Voilà donc les Américains de Slayer, avec ce petit morceau très court, 2 minutes 29, de pur Slayer, hein, on reconnaît déjà les gimmicks. Pourtant ce morceau
est... Les solos notamment. Ouais,
même si là on est sur donc Aggressive Perfector, enregistré, réenregistré à l'époque de Rain in Blood, le morceau date de 2-3 ans avant, Rain in Blood en 86, que sortait le chef-d'œuvre absolu de Slayer.
Rain in Blood.
Ouais.
Voilà. On va continuer avec un autre groupe américain. On est décidément, on reste beaucoup aux États-Unis.
La vague trash a commencé aux États-Unis.
Ouais. Tout à fait. Alors, les trois premiers groupes étaient issus de la Californie, hein, donc plutôt la côte ouest. Il faut savoir qu'il y avait aussi une scène, il y a une scène aussi côte est, mais où il y a moins quand même de cadors. Hein, on n'est plus dans le Big Four. Avec un groupe que tu évoquais tout à l'heure, un groupe qui, semble-t-il, a été formé un petit peu avant Metallica. Hein. Il s'agit des New Yorkais de Overkill.
Oui, ça serait fin 79, début 80. Quoi.
Exactement, fin 79, début 80, exactement. Donc c'est un groupe qui était, enfin initialement, qui avait formé autour du chanteur, le fameux Bobby Ellsworth, dit Blitz Ellsworth, et le bassiste qui s'appelle Didi Verney. Donc Overkill a une discographie mais qui est longue comme le bras. Ils se sont jamais arrêtés en sortant très très régulièrement des albums genre tous les deux ans. Même là dernièrement, hein, c'est un groupe qui produit encore d'excellents disques.
Alors il y a une grosse période à vide où les albums sont un peu moins bien, mais les deux, trois derniers
Iron Bone notamment, c'est celui qui me vient en tête.
Ouais, c'est vraiment des petites merveilles de trash, plus modernes d'ailleurs que ce qu'ils faisaient au début.
Complètement, ils ont évolué complètement. Alors Le Overkill se caractérise par le chant quand même très très particulier de Bobby Blitz Ellsworth, hein, qui est vraiment un chant qu'on reconnaît entre mille.
Nasillard.
Un peu nasillard, ouais, complètement. Allez, je vous propose un extrait, un extrait live, donc c'est un live de 95. Avec un morceau, hein, donc issu un morceau qui s'appelle Power Surge. Ouais, c'est ça, Power Surge, est sorti de l'album qui s'appelle Tanking Over, qui était sorti en 1987, donc une version live de ce morceau, Power Surge par Overkill. We'll be right back. voilà, Overkill, avec un extrait de leur album qui s'appelle Take It Over, et le morceau c'était Power Surge. On reconnaissait bien la voix de Blissel Schwartz, hein, au chant. Il faut savoir qu'ils sont passés à Lyon il n'y a pas très très longtemps, et genre il y a 2-3 ans, hein, à Lyon, ils étaient passés au CCO dans une ambiance de folie. Et c'est toujours impressionnant, hein, parce que malgré son âge canonique, parce que maintenant il commence à être un petit peu ancien, il est toujours torse nu et tout, il est vraiment impressionnant sur scène, quoi, hein, c'est très très bon. Il faut savoir aussi que dans sa vie de tous les jours, il est juste, comment on dit, il est dirigeant d'un magasin de chocolat. C'est absolument hallucinant.
Ah, c'est dingue.
Ah, tu savais pas, hein?
Ah, non, je savais pas.
Non, il est pas professionnel, hein, il gagne pas sa vie avec Overkill, parce que bon, c'est clairement la deuxième division du thrash metal quand même.
Ouais, ouais, enfin, c'est la deuxième division. En termes de succès.
En termes de succès, ouais. Il y a un succès d'estime, mais il n'y a pas de. Mais commercialement parlant, ils ne sont jamais beaucoup, beaucoup vendus. Donc, il a toujours maintenu son activité de chocolatier.
Si on regarde en termes de succès, seuls les membres du. Et même Slayer, alors, ils vivent de leur musique, mais ils n'ont jamais vendu des millions d'albums. Finalement, c'est essentiellement Metallica, Megadeth et Anthrax, ouais, le quatrième du Big Four, qui, eux, ont surnagé commercialement au-dessus des autres. D'ailleurs, donc, moi, je vais continuer dans le Big Four avec, effectivement, Anthrax.
J'ai jamais compris pourquoi Anthrax faisait partie du Big Four, parce que pour moi il y a des groupes comme Testament qui sont quand même bien, bien au-dessus d'Anthrax.
Oui, non, mais pas au niveau succès, parce qu'en fait moi je me rappelle très bien aussi que Testament au niveau trash, d'abord ils ont amené une violence qui était beaucoup plus importante qu'Anthrax par exemple, qui est un groupe plus sympa, plus accessible finalement.
Exact.
Mais c'est en termes de succès que ça s'est joué sur le Big Four.
Ah, le Big Four, c'est ça, c'est un classement des ventes, c'est ça. C'est
moi, je pense, enfin, je sais pas,
j'en sais rien, ouais, hein, je me permets de te poser la question. Je sais que tu es un grand érudit du trash metal.
Bah là, je savais pas. Donc je sais pas. Donc du coup, Anthrax, il a fallu choisir aussi un album. Moi, pour moi, c'est évident que c'est le deuxième album, Spreading the Disease. D'abord parce que c'est l'album qui m'a fait découvrir Anthrax. Alors c'est une époque où ça passait à la télé. Hein. Il y avait des clips de Madhouse, notamment.
Oui, oui, oui. Non, c'est vrai. Oui,
non, mais moi j'ai découvert avec à la télé. J'avais
TV6,
pas.
TV6, notamment.
Ouais, j'avais pas. Je ne connaissais pas le premier album, Fistful of Metal, que je connais depuis et qui est quand même un cran en dessous.
Clairement.
Bah déjà au niveau chanteur, puisqu'il n'y avait pas encore Joe Belladonna, qui est mon chanteur préféré d'Anthrax, même si son remplaçant John Bush est lui aussi très très bon. Donc voilà, j'ai eu envie de réécouter donc Madhouse, effectivement le morceau un peu orienté MTV pour du trash qu'on a découvert dans les années 80. Pour se dire, hein, Spelling the Disease, on est en 1985.
Tout de même.
Ah oui, donc voilà. On a commencé en 81. C'est un groupe qui s'est formé aussi en 81 à New York. Voilà. Allez, Anthrax. It's time for your medication, Mr. Brown. I'm Voilà, donc Anthrax avec ce premier album qui va marcher. Alors c'est pas le premier album, mais c'est le premier album qui fonctionne, Spreading the Disease. Donc voilà, on est au milieu des années 80. Anthrax, eux, ils vont exploser. Non pas, enfin avec celui-là, ça va être le début de la reconnaissance, hein, puisqu'il y aura des clips, etc. Mais par contre, ils vont exploser par la suite en faisant Indians, quelques tubes comme ça, notamment un morceau avec Run DMC, enfin des choses très en marge du trash finalement. Et c'est ça qui va faire que Anthrax va exploser et puis après disparaître corps et âme, tout en continuant à sortir des disques, mais sans rencontrer le succès au milieu des années 90, quand tous les groupes de trash ont disparu.
Exactement, les années 90 avec nos amis de Seattle, avec le grunge,
qui ont tout tué,
ont tout plié, le néo-métal, tout ce qui était trash, glam, etc. Il y a toute une vague qui a complètement disparu dans les années 90. Mais c'est des groupes, des groupes qui ont quand même réussi à persévérer et qui sont aujourd'hui présents. Anthrax a sorti un album l'année dernière. Ouais. Ils font partie du Big Four. C'est un groupe qui reste très actif. On va continuer, mais on va changer de pays parce que pour l'instant, on vous a passé que des groupes américains. On va juste passer la frontière pour se diriger au Canada avec un autre fleuron du thrash metal, mais là aussi, quand même pas non plus la Champions League, on va dire.
C'est plutôt en termes de vente, en tout cas, oui.
En termes de
vente. En termes de qualité, cet album est une petite merveille.
Tout à fait. On va s'intéresser au groupe qui s'appelle, au groupe canadien, donc, qui s'appelle Annihilator. C'est avant tout, ce groupe est le groupe d'un guitariste, enfin d'un musicien hors du commun qui s'appelle Jeff Waters, qui est originaire de Ottawa, donc c'est une ville anglophone du Canada. Donc il a formé son groupe en 1984 et il a sorti son premier album qui a vraiment donné une grosse claque à tout le monde. C'était en 1989, l'album s'appelait Alice in Hell. Et tu évoquais tout à l'heure les clips qu'on pouvait regarder le soir sur TV6. Et moi, je me souviens très nettement avoir découvert ce groupe via le clip du morceau que je vous propose aujourd'hui, qui s'appelle Alison Hell, vraiment un tube d'Annihilator, quoi.
C'est le meilleur morceau jamais composé par Jeff Waters.
Je pense, ouais. Alors, il faut savoir que, donc, Annihilator a une carrière très, très prolifique aussi. Il y a eu de multitudes d'albums. La problématique, c'est que Jeff Waters, c'est quelqu'un qui, manifestement, est un petit peu difficile à vivre.
Tu veux dire, c'est une espèce de dictateur.
On va dire ça comme ça, puisque.
Donc, en général, les chanteurs restent deux albums.
Ouais, deux albums. Sauf la dernière version du groupe, puisqu'apparemment, j'ai mangé son nom.
Oui, moi aussi.
Mais le dernier chanteur, ça fait, je crois, trois albums qu'il est là. Je sais pas, il doit s'accrocher fermement, il veut pas partir. Enfin voilà. Allez, on vous propose donc, oui c'est ça, donc Annihilator, extrait du premier excellent album, ça s'appelle Alison Hell.
Looking blue. What else can you do?
Annihilator avec un extrait de son excellent premier album. Hein. Le morceau c'est Alison Hell et le CD, l'album s'appelle Alice in Hell. À l'époque c'était Randy Rampage qui chantait, un véritable nom de catcher. Il est resté que cet album-là. Voilà, Annihilator. Donc voilà, une carrière un petit peu difficile du fait de la multiplication des versions du groupe. Voilà,
ouais, ouais. Bah c'est à cause de son guitariste, compositeur, dictateur.
Exactement.
Alors on va passer, c'est un autre groupe, mais toujours américain. Nord-américain et des USA très exactement qui devrait être dans les quatre mais nous on le mettrait plutôt dans le Big Four et on enlèverait un peu Anthrax qui est un peu moins trash, c'est Testament. Excellent. Alors c'est vrai que le Testament est arrivé après puisqu'ils sont formés en 83, donc c'est un peu, ils étaient déjà influencés par les autres et du coup moi je me rappelle très bien la première écoute du premier album The Legacy quand il est sorti, c'était un cran au-dessus au niveau vitesse, au niveau violence, voilà, c'était un cran au-dessus. Et donc finalement je me suis dit je vais écouter le premier morceau du premier album comme quand j'avais 17 ans que j'ai écouté Testament. Donc on est en 1987. Donc voilà, j'ai 18 ans d'ailleurs pour le coup.
C'est ça nous reste à vous chers auditeurs de calculer l'âge du grand timonier aujourd'hui.
Et on s'écoute tout de suite Testament qui aura aussi une carrière un peu apocalyptique finalement.
Oui, il y a eu un gros split. Bah, il faut savoir quand même que Chuck Billy, le chanteur charismatique de Testament, a eu quand même un cancer à surmonter. Il a vaincu la maladie. Il est sorti gagnant de ce combat.
Et puis le guitariste solo Alex Kolnick est parti. Ça a enlevé quand même un truc particulier à Testament. C'était l'ultra technicité de ce guitariste.
Exact. D'ailleurs, il était pas très. Il improvisait pas mal de solo pendant les lives.
Moi je me rappelle la première tournée où dans les interviews il disait, le public ils apprécient pas que je joue pas exactement les mêmes notes que sur l'album, parce qu'effectivement il a pas mal d'influence jazz
notamment.
Il a sorti d'ailleurs des albums de jazz. Et du coup après il était obligé de rejouer vraiment les solos du disque pour que les fans soient contents. C'est marrant ça.
Il faut savoir que Testament a une deuxième partie de carrière qui est hyper intéressante, hein, notamment cette année ils ont sorti un album absolument monstrueux.
Ah,
oui. La
tuerie trash de l'année.
Pas loin. On est d'accord.
De toute façon, on fera bientôt notre bilan. Allez, Over the Wall, premier morceau du premier album The Legacy de Testament. Voilà, Testament, The Legacy, premier morceau, Over the Wall, quand on mettait le vinyle, la première fois qu'on entendait ça, on se disait, waouh,
ça va, on le dit encore aujourd'hui.
C'est vrai. Alors, c'est la version non remaster, je sais pas si c'est une version remaster avec un son qui pète un peu plus, mais voilà, c'est donc énorme groupe, Testament, surtout au début, et puis après, voilà, et donc, dans, bientôt, on vous repassera sûrement un extrait du dernier album qui est une merveille.
Tout à fait.
Ce qui veut dire que voilà, ils ont bouclé la boucle, ils ont commencé par un album de dingue, et aujourd'hui, cette année, en 2012, ils ont sorti un album de dingue aussi.
Alors après la première vague donc des groupes américains de thrash metal, donc il y a une deuxième vague qui est apparue du côté de l'Europe. Donc on va traverser l'Atlantique pour s'intéresser à un des fleurons. On en a un petit peu parlé la semaine dernière, un des fleurons du thrash allemand qui s'appelle Kreator. Donc il s'est formé, je crois, au milieu des années 80. Il faut que je ressorte mon gros papier où j'ai noté toutes mes dates.
Ah tu t'es fait des fiches.
Ah bah oui, je me suis fait des fiches. Ah bah attends. Hey. C'est un peu le masque et la plume là aujourd'hui, on est obligé de prendre des notes et tout quoi. Donc oui, effectivement, premier album pour Kreator 1985 et deuxième album qui s'appelle Pleasure to Kill qui est un chef-d'œuvre aussi.
C'est l'album référence un peu.
Un des albums de référence ouais, de Kreator.
Alors c'est pareil hein. Kreator 2012, album de tueur. Ouais,
Phantom Antichrist, ils étaient encore en concert il y a 15 jours à Lyon.
Du coup, voilà, ces vieux groupes qui ont créé, popularisé le trash, ils sont encore là.
Ils sont encore là et encore bien vivants. Alors, on l'a un petit peu évoqué tout à l'heure, mais il y a eu quand même la période des années 90 qui a été quand même terrible pour ces groupes-là, notamment Kreator qui
a essayé autre chose aussi.
Qui a essayé autre chose. Il y a eu une traversée du désert pour le groupe hein, où ils ont sorti 3-4 albums qui étaient très très contestés en essayant de toucher un petit peu à d'autres choses. Je pense à des albums comme René Wall, Andorama notamment, ou
un peu gothique.
Un peu gothique, quoi. Très très surprenant. C'est un album, si vous êtes fan de Kreator, enfin jetez une oreille sur cet album qui est vraiment extrêmement déroutant, très intéressant, mais qui est pas du tout du trash comme on pouvait l'attendre de la part de Kreator. Allez, cessons de parler et intéressons-nous donc au deuxième album. Donc, c'est tout simplement Pleasure to Kill. Le morceau, c'est Pleasure to Kill, encore un hymne de Kreator qui joue très très régulièrement en concert.
Still, no one's safe in the bounds of threat. Cause they are
Le plaisir de tuer. Des vrais poètes, ces Allemands de créateurs.
Bah, le trash, c'est pas toujours très poétique comme parole associée à cette musique.
Ouais, c'est pas toujours très fin, oui, en effet. Donc voilà un extrait du deuxième album de créateurs qui s'appelait Pleasure to Kill. Pour ceux qui ne connaissent pas créateurs, il y en a peut-être qui nous écoutent parmi nos auditeurs. Moi, je vous conseille l'album de 1990 qui s'appelle Coma of Souls, qui est absolument un des chefs-d'œuvre de créateurs et qui se caractérise notamment par une production qui est très, 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 très propre et qui permet vraiment de profiter des hymnes de créateurs.
Alors, dans la série, il nous reste deux groupes. Hein, dans la série, des groupes qui ont marqué un petit peu cette période et qui ont eu moins de succès. Je vais parler de Death Angel, qui existe toujours, qui sont formés. Ils ont un peu évolué au niveau du style de musique, mais à l'époque, c'était vraiment une des références du thrash metal. Ils ont sorti au moins trois albums qui font référence. Les trois premiers. Je vous propose un extrait du premier album, Ultraviolence, qu'ils avaient joué l'année dernière.
En intégralité.
On les a vus au Hellfest et ils faisaient une tournée autour de cet album.
C'était cette année au Grand Tivoli.
Oui, c'est vrai, on est encore 2012. Pour quelques jours encore. Donc, on écoute Evil Priest. Donc voilà, vous imaginez, 4 gamins de 17 ans.
Oui, ils avaient 17 ans à l'époque, c'est incroyable.
Ils n'étaient pas 4, c'était 5. Et parce que j'ai la pochette sous les yeux, ils sont 5. Mais 16, 17 ans, ils enregistrent cet album. Vraiment hyper bien. Allez, Evil Priest, le groupe Death Angel.
It's a song for me.
Voilà, Death Angel, sur l'album de 87, c'est-à-dire le premier album dit Ultra Violence. Ça, c'est la version normale du CD. Il est en passe d'être réédité, donc sûrement remasterisé aussi.
Ouais,
voilà, donc le morceau, c'était Evil Priest, et qu'on a vu, donc, Death Angel l'année dernière.
Cette année,
oui, on est encore 2012, c'est vrai. Donc le groupe s'est reformé, du coup, avec une version des albums qui sont pas mal, mais ils sont presque punkisants, eux, des fois. Hein.
Mm-hmm. Exactement.
Ils ont fait ressortir leurs influences punk.
Tout à fait. Avant de poursuivre avec le dernier morceau, un petit point, le point traditionnel des concerts sur la région. Alors bien sûr, maintenant, les gros morceaux sont passés. Mmh. On va finir l'année. Ça se passe demain, le 15 décembre, au Moco, avec un support sur Local Team, avec Corkage et Deadside en première partie. Ensuite, on passe l'année prochaine, donc le 20 janvier, au Transborder, les Progueux de Marillion. Le 2 février, à la Cave à Musique de Mâcon, le retour de Belphégor. Et le 12 février, on s'arrêtera là, au CCO, le retour aussi du Pagan Metal de Korpiklani, les Finlandais qui viennent boire des bières avec nous. Voilà. On va finir cette émission spéciale Trash des années 80 avec un autre groupe européen, un groupe qui a vraiment un groupe culte, quasiment culte, ouais. Un groupe suisse qui s'appelle Coroner, tout simplement.
Ils étaient associés à un style qui était pratiqué par très peu de groupes qu'on appelait le techno-trash.
Le techno-trash, pas
le trash technique. Ouais, voilà, pas le trash boom-boom.
Ouais, voilà. Oh, joli, ça, le trash boom-boom. Intéressant.
La techno n'existant pas à l'époque, hein, on rappelle. On est à la fin des années 80. Là.
Oui, fort heureusement. Voilà. Donc Coroner, c'est un groupe qui s'est formé au milieu des années 80, je crois, en 86, et qui avait signé à l'époque un contrat qui va malheureusement leur coûter je mange mes mots. Enfin, ça, ils sont très très jeunes à l'époque, ils signent un contrat vraiment très très pourri avec une célébrissime boîte qui a disparu depuis qui s'appelle Noise. Et
ouais.
Donc ils sont tenus de sortir 5 albums et ils vont aller au bout du 5e album et ils vont splitter en 95 malheureusement.
Ils se reformeront
surtout sur l'insistance de pas mal de festivals métal qui sont très très friands de d'exclusivité, de choses comme ça. Et c'est le Hellfest qui réussira, je crois, en 2011 ou 2010.
Il y a deux ans.
Ouais, il y a deux ans, à obtenir donc une date de Coroner. Donc ils vont se reformer à ce moment-là. Mais Coroner a sorti donc en 1987 son premier véritable album qui s'appelle Rest in Peace. Un excellent album de thrash très très technique. Donc je vous propose le morceau qui s'appelle When Angels Die, quand les anges meurent.
Et c'est le dernier morceau de l'émission. On se retrouve la semaine prochaine pour une émission normale.
Normal.
Et on fera peut-être une deuxième émission de trash parce que
je suis sûr.
On a du stock encore sur les années 80, rien que sur les années 80.
Bien sûr, nous on a adoré le faire. J'espère que vous avez adoré l'écouter, chers auditeurs. Allez, à la semaine prochaine. Portez-vous bien. Bye.